accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On a beaucoup parlé du casse-tête que pose le Brexit à la frontière nord-irlandaise. Moins des bouleversements qu'il risque de provoquer à Gibraltar, territoire d'outre-mer britannique situé à la pointe de l'Andalousie. Aujourd'hui, c'est un petit paradis économique qui profite aussi bien à ses 34 000 habitants qu'aux 8 000 Espagnols qui viennent y travailler chaque jour. Cette fluidité des échanges va-t-elle être remise en cause? C'est ce qu'a cherché à comprendre sur place Laetitia Dive.
Il est midi à Gibraltar, dans ce café de Main Street, la principale artère commerçante. Les premiers clients viennent chercher leur déjeuner. À côté de la très anglaise soupe de haricots, mijote un plat de lentilles au chorizo. Ce plat, la serveuse Merci le connaît bien, car comme elle, il vient de l'Andalousie voisine. La Quadra fait en effet partie des quelques 8000 Espagnols qui travaillent sur le territoire britannique.
Je traverse la frontière tous les jours. Je laisse la voiture et je viens à pied. Moi, je parle espagnol, très peu l'anglais, à un niveau vraiment débutant. Mais en fait, ici, la majorité des gens parlent aussi espagnol pour qu'il n'y ait pas de problème.
De l'autre côté de la frontière, les habitants de la Linea de la Concepción font leur marché. Dans cette commune de près de 65 000 habitants, le chômage dépasse les 30% depuis des années. C'est donc pour échapper à la misère que beaucoup ont opté pour un emploi à Gibraltar. Parmi eux se trouve Ressos. Depuis 18 ans, le quinquagénaire traverse la frontière tous les jours pour se rendre à son travail. Le trajet est parfois éprouvant. Les douaniers espagnols durcissent régulièrement les conditions de passage lorsque les relations diplomatiques entre Londres et Madrid se crispent. Lui a déjà attendu pendant plus de 6 heures pour pouvoir rentrer chez lui. Il blâme exclusivement les dirigeants de son pays.
Ce qui intéresse l'Espagne, c'est que la frontière ne soit pas fluide. Le jour où Gibraltar n'est plus en Europe, l'Espagne pourra agir sur cette frontière comme sur n'importe quelle frontière qui n'est pas dans l'espace Schengen. C'est la peur de tous les travailleurs.
Et ce jour arrive à grands pas. Gibraltar devrait quitter l'Union européenne en même temps que le Royaume-Uni le 29 mars 2019. Selon une étude menée par la région Andalousie, 58,7% des travailleurs espagnols pourraient être affectés par ce changement. Salvador Molina est le créateur de l'ASTEG, une association qui regroupe des Espagnols employés à Gibraltar et se bat notamment contre les blocages à la frontière. Selon lui, le désir obsessionnel de Madrid de récupérer le rocher a été ravivé par le Brexit et pénalise encore une fois les travailleurs frontaliers.
La Linea n'a aucune industrie. La seule industrie proche, c'est celle de Gibraltar. Si ça reste britannique, on aura toujours du travail, mais si jamais demain ça devient espagnol, il y aura beaucoup de corruption et de misère.
Si ce scénario semble inenvisageable, à Gibraltar, on s'inquiète surtout des conséquences qu'aura le Brexit sur la circulation des biens et des personnes. Au total, plus de 13 000 individus franchiraient quotidiennement la frontière. Parmi eux, on trouve d'ailleurs de nombreux Gibraltariens qui possèdent des maisons en Andalousie. Pour Joseph Garcia, vice-ministre en chef du Rocher, tout l'enjeu est donc de maintenir la plus grande ouverture possible.
La priorité pour nous, c'est la frontière. C'est d'avoir une frontière fluide comme celle que l'on a aujourd'hui pour les personnes comme pour les biens. On n'est pas dans Schengen, car le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen. Mais ça pourrait être une solution envisageable si on nous dit « Regardez, l'une des façons de régler ce problème de frontière, c'est que vous rentriez dans Schengen même sans le Royaume-Uni. »
Comme lui, la plupart des 34 000 habitants de l'enclave aimeraient garder un pied dans l'Union européenne. En 2016, ils avaient voté à plus de 96% contre le Brexit. Jennifer Ballantine est historienne à l'Université de Gibraltar. Elle raconte.
Je me souviens du jour où les résultats sont sortis après le référendum. Les gens dans les rues étaient choqués. Moi-même et ma famille, on était surpris.
Pourtant, pas question de remettre en cause leur statut de territoire d'outre-mer britannique. Pour la spécialiste, la relation avec Londres n'a pas changé et l'indépendance n'est donc pas envisagée.
Il n'y avait pas de colère. La préoccupation, c'était de savoir comment l'Espagne allait réagir et si elle allait s'en servir comme une arme qui les aiderait à déstabiliser Gibraltar.
Malgré les changements qu'impose le Brexit, les Gibraltariens restent donc profondément attachés au Royaume-Uni et cela se voit partout dans les rues où des fish and chips et des cabines téléphoniques rouges font le bonheur des touristes. Dans une boutique du centre, des adolescentes sont en plein débat devant des tasses à l'effigie de la famille royale britannique. En face des magasins de souvenirs trône la chambre de commerce de Gibraltar. Edward McKiston, son directeur, se réjouit que les visiteurs continuent d'affluer.
On est une petite entité, mais on a une grande histoire. En plus, on est juste à côté de la Costa del Sol, donc on reçoit un grand nombre de visiteurs chaque année.
Le tourisme est l'une des trois principales ressources du territoire, avec la finance et l'activité portuaire. D'après Edward McKiston, aucun de ces secteurs n'a souffert d'un effet Brexit pour le moment.
Depuis le vote, il y a 18 mois, les entreprises ont continué à investir massivement à Gibraltar, tout en sachant qu'on allait sortir de l'Europe. Ces entreprises ont quand même décidé de venir et de dépenser parfois des milliards de livres pour investir ici.
Avec l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde et des taux d'imposition très faibles, Gibraltar reste donc une place de choix pour les entreprises. Aujourd'hui, leurs dirigeants comme leurs employés espère conserver tous ses avantages.
Après l'indice du bonheur, économistes et politiques sont-ils en train de mettre en place l'indice de la solitude ? Au Royaume-Uni, selon une étude de la Croix-Rouge, 200 000 personnes âgées déclarent n'avoir parlé ni à un proche ni à un ami durant le mois précédent. Le gouvernement a créé un secrétariat d'État à la solitude à Londres, Marie Billon.
La solitude est désormais considérée comme un problème de santé publique au Royaume-Uni. Elle est accusée d'accélérer la sénilité, les maladies cardiaques et la dépression. Voilà pourquoi le gouvernement britannique a promu Tracy Crouch à un secrétariat d'État à la solitude. Mais comment une ministre peut-elle combattre l'isolement des gens ? Parce qu'elle a notamment compétence sur des sujets transversaux qu'elle touche à tous les domaines. De l'accessibilité des transports à la mise en place de solutions pour les patients qui vont voir leur généraliste parce qu'ils se sentent seuls, une personne sur cinq selon la campagne To End Lonely. La secrétaire d'État peut aussi prendre des initiatives. Dans certaines régions britanniques, par exemple, les facteurs sont formés pour proposer une interaction sociale aux personnes qui en ont besoin. Après tout, c'est quelqu'un qui passe tous les jours devant les mêmes paliers. D'autres professions pourraient aussi bénéficier de cette formation, les plombiers ou les électriciens. Mais la création de ce seul ministère n'est pas suffisante. Theresa May a aussi demandé au Bureau national des statistiques d'établir une méthode de mesure de la solitude et un fonds au budget restant à définir va être créé pour promouvoir les initiatives locales et nationales. Certaines d'ailleurs existent déjà. Men in Sheds pour les hommes âgés à qui les tâches physiques raisonnables manquent, ou les Knit and Natter Groups pour ceux qui veulent tricoter ensemble. Sauf que, selon certains, tout cela est bien beau, mais le gouvernement donne d'une main ce qu'il retire de l'autre, en n'augmentant pas le budget de la santé, par exemple, ce qui interdit aux infirmières à domicile de prendre un peu plus de temps pour discuter avec leurs patients les plus âgés. Les autorités locales ont aussi leurs responsabilités en multipliant les fermetures de bibliothèques, lieux de rencontres, tout comme les pubs, qui, dans les régions isolées, sont parfois le seul endroit où on peut espérer parler à quelqu'un.
Les villes européennes et a fortiori les capitales, première destination des migrants, c'est là que se pose avec la plus grande urgence la question de l'hébergement. Entre accueil et rejet, c'est le titre que l'anthropologue Shora Makaremi a choisi pour son livre où elle analyse les différentes politiques d'accueil. Elle a expliqué à Catherine Roland comment la ville de Paris et son centre ouvert dans le nord de la ville maniaient l'ambiguïté entre humanitaire et tri administratif.
Ceux qui sont hébergés au centre doivent aller enregistrer leurs empreintes digitales dans un bureau qui a été créé par la préfecture de Paris et rentrent dans ces réseaux administratifs, dans un parcours administratif qui leur est défavorable et qui va soit déboucher sur l'impossibilité de déposer une demande d'asile en France, soit sur une expulsion vers un pays où ils sont, comme on dit, dublinables, c'est-à-dire qui est leur premier pays de passage en Europe. Donc le choix d'Anne Hidalgo à Paris a été de camoufler toutes les tensions et les conflits avec la préfecture, parce que concrètement, la mairie a vraiment été prise en otage par la préfecture, elle n'a aucune marge de manœuvre. Mais au lieu de le dire, au lieu de l'expliciter, toute forme de dialogue a été recalibrée en communication officielle, et donc ces pratiques de tri ne sont pas dénoncées par la mairie elle-même, alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés.
Voilà pour l'exemple parisien. Il y a d'autres exemples, contre-exemples en Europe. On peut prendre par exemple l'exemple de Berlin, où là, la politique est plus peut-être une politique d'intégration.
Oui, alors il y a des politiques publiques très vastes d'accueil. La ville commons culture, la culture de l'accueil, de l'hospitalité qui se met en place en 2015. En fait, ce qui est montré aussi dans ce chapitre, c'est comment est-ce que ces principes d'accueil peuvent venir en contradiction avec une série de préjugés qui dérivent de quoi ? Du fait que les gens qu'on accueille ne sont jamais assez remerciants pour leur accueil ou ne correspondent pas à la figure idéale du réfugié fuyant la guerre qu'on souhaitait accueillir. On analyse aussi tous les malentendus qui sont créés entre le fait de penser prendre en charge de façon humanitaire des gens vulnérables et puis d'avoir en face de soi des gens qui sont acteurs de leur destin, qui ont beaucoup de ressources et qui ne font pas forcément tout ce qu'on leur dit ou qui ne vont pas où on leur dit d'aller.
Alors, on parlait effectivement des municipalités, de ce qu'elles faisaient officiellement. Il y a également ces habitants amicaux au Danemark qui s'opposent au discours très hostile de la part de responsables politiques ou de l'extrême droite et donc des habitants qui se mobilisent et qui accueillent volontairement des migrants.
Ce qui est intéressant aussi dans ce cas des habitants amicaux, c'est que ce n'est pas une notion qui a été inventé ou créé pour répondre à l'arrivée des migrants et à leur traitement très hostile dans le discours public. C'est une notion qui a été créée dans les relations de soins. C'est une façon d'être bienveillant, de pratiquer la bienveillance, de pratiquer ce qu'on appelle le care, donc de mettre en avant une certaine spontanéité dans un rapport bienveillant à l'autre. C'est à la fois localisé dans les lieux et délocalisé sur des réseaux sociaux.
C'est justement toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que certains, même des bénévoles, disent mais finalement, on a totalement dépolitisé la façon d'accueillir les migrants et est-ce qu'on ne se substitue pas à ce que l'État devrait faire ?
C'est ce que montre un petit peu l'enquête sur les réseaux d'hospitalité privée à Paris. Comment est-ce que les accueillants se situent par rapport au fait qu'ils doivent se substituer à l'État ? Certains trouvent cela normal parce que l'État est surchargé, d'autres disent mais ce n'est absolument pas à nous de le faire, mais en même temps c'est notre façon de militer contre des politiques d'hostilité publique. Mais d'un autre côté, je pense que poser la question des migrations en termes d'accueil, c'est une façon d'oublier que tout ça est le produit de politiques de contrôle migratoire. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui à penser l'hospitalité chez les uns, chez les autres, chez des privés, c'est parce que depuis plus de 20 ans, il y a des politiques extrêmement répressives de fermeture des frontières qui créent ces situations-là. C'est-à-dire concrètement qu'en France, il y a eu 50 000 demandes d'asile enregistrées en 2016 et 100 000 demandes d'asile enregistrées en 2017. On est très très loin des chiffres de 800 000 demandes d'asile par an qui sont enregistrées en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de demandeurs d'asile qui dorment dans les rues. Et en France, il y a sans cesse cette question du logement. Et l'État social, pourtant en France, est un État fort.
Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants, de Chora Makaremi, est publié aux éditions Le Passager clandestin. Aux abords de Sarajevo, le mont Trebević véhicule une triste mémoire, celle de la guerre des Balkans et des pilonnages de l'armée serbe contre la ville assiégée. Mais en remontant un peu plus loin dans l'histoire, la montagne a aussi accueilli l'épreuve de bobsleigh des Jeux Olympiques d'hiver en 1984. De quoi nourrir l'envie de certains habitants de refaire du mont Trebević un lieu de promenade et de détente. Reportage signé Philippe Bertinchamp.
À moins d'une demi-heure de route de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, le mont Trebević a retrouvé la sérénité. Plus de 20 ans après le siège de 1992-95 et les pilonnages de l'armée serbe, le terrain était déminé. Barbecue, virée sportive, échappée en amoureux. La paix est là, de nouveau, semble-t-il. La ligne de démarcation entre deux entités, la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska, est presque imperceptible. Bosniaque et Serbe s'y promènent, ensemble. Sanja Kavaz est l'auteur d'un blog de course à pied, Trčim jer Trčim. Depuis 2015, avec le Comité olympique de Bosnie-Herzégovine, elle organise le Jaorina Ultra Trail, une course de 104 km par les collines et sommets entourant la vallée de Sarajevo.
Il y a 5 ou 6 ans, nous avons commencé à organiser des randonnées et des courses à pied sur les sentiers de montagne. Je voulais connaître ces pistes qui se trouvent à la fois en Fédération et en Republika Srpska. Nous nous sommes informés auprès des habitants pour savoir s'il y avait encore des mines et aussi auprès de l'agence d'État en charge du déminage. Quand nous avons été tout à fait certains que ces pistes étaient sans danger, nous nous sommes mis à explorer Trebević en long et en large.
Né à la fin des années 70 à Ilitch, un faubourg de Sarajevo, Sanja Kavaz se souvient du Montrebević et des pique-niques des beaux dimanches d'avant-guerre. Mais elle rappelle aussi que, jusqu'il y a peu, la montagne du malheur, laissée à l'abandon après le conflit, s'était transformée en un vrai coupe-gorge.
Trebević était un endroit très dangereux, d'abord à cause des mines, c'était une zone de guerre. Il a donc fallu déminer le terrain. La nuit, il y avait des malfaiteurs, des groupes criminels arrêtaient votre voiture, la volaient avec votre argent et tout ce qui pouvait les intéresser. Il a donc aussi fallu du temps pour régler tout ça, pour que Trebević redevienne un lieu sûr et que les habitants de Sarajevo et de Sarajevo-Est puissent y retourner.
Pendant le siège de Sarajevo, la piste olympique de bobsleigh et de luge, construite dans un esprit de volontariat par la jeunesse yougoslave, a servi de rempart aux tireurs de l'armée de la République serbe de Bosnie, commandée par le général Ratko Mladic. Il a été condamné à perpétuité en novembre 2017 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mitreta Solic est commissaire d'exposition au Musée des crimes contre l'humanité et du génocide à Sarajevo.
Croyez-moi, à l'époque, les gens avaient peur de Trebević. Chaque maison, chaque rue était comme un camp de concentration. Quand quelqu'un vous ôte le droit à la vie, le droit à la liberté et même le droit de se nourrir, qu'est-ce que c'est sinon un camp ?
Quand on parle de Trebević, il faut aussi parler du téléphérique. Le 3 mai 1959, la rue Hervatin, dans le quartier de Bistrik, est noire de monde. Au début de l'après-midi, les édiles communistes de la ville inaugurent solennellement le funiculaire. 12 minutes au-dessus du vide, et la cabine suspendue à un câble atteint la station de Vidikovac, 600 mètres plus haut. Sarajevo et Trebević sont enfin raccordés. Aujourd'hui, là-haut, dans la montagne, non loin de la piste de bobsleigh, le chantier va bon train. Le tracé est quasiment le même que celui de l'ancien téléphérique, détruit lors des combats. Les cabines flambant neuves aux couleurs olympiques sont fin prêtes. Le 27 janvier, les premiers essais ont eu lieu. Adnan Selmanovic est ingénieur de Sarajevska Žičara, l'entreprise de montage et de maintien de la nouvelle ligne.
C'est très important pour le développement touristique de Sarajevo. Ça permettra de ramener les Sarajeviens à Trebević, sachant que ces 20 dernières années, Trebević était complètement délaissé. Grâce au nouveau funiculaire, les gens de Sarajevo reviendront à ce qui était leur lieu favori de pique-nique avant la guerre.
Le maire Abdullah Skaka l'a promis, juré. Après 20 ans de déboires administratifs et grâce à un budget de 9 millions de dollars, le 6 avril prochain, jour de Sarajevo, sera le jour J, celui de l'inauguration officielle du funiculaire. Des airs d'accordéon s'échappent du cercle des montagnards. La neige tombe, un tapis moelleux et blanc recouvre les chemins. Dans la salle enfumée, on rit très fort. On écoute les goualantes des copains, les vieux chants de le Sevda, le fato du passé. L'eau de vie, on vous la sert bien avant qu'on en redemande. Edini Broul, la moustache grisonnante, est le président de l'association, fondée en 2006.
On est ici non-stop. Tous les jours, il y a quelqu'un, mais le samedi et le dimanche, eh bien, c'est le grand jour. On se réunit tous, les membres de notre cercle et ceux d'autres clubs de montagnards. On vient à Trebević, on se promène, on s'amuse un peu, on recharge nos batteries. Demain est un autre jour et ainsi va la vie.
Edin tend le bras. À Lukavica, de l'autre côté de la ligne de démarcation, en Republika Srpska, il y a aussi un club alpin. Chacun de son côté marque ses pistes. Mais au retour du beau temps, les montagnards ont convenu de se rejoindre au sommet pour une accolade amicale et fraternelle.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité. On se retrouve pour notre part dès demain.